Bonjour à tous. Vous emmène dans quatre lectures ce matin, de grosses et de petites. La première, nous irons la chercher dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 53. Ceux qui connaissent un peu le livre auront tout de suite reconnu Mais avant de lire les Écritures saintes, je veux prier avec vous pour que l'Esprit Saint nous couvre, nous dispose et nous éclaire. Prions. Oui, Dieu Tout-Puissant, nous ne te voyons pas, nous ne t'entendons pas, nous ne te touchons pas. Tu es comme derrière un voile pour nous. Mais tu t'es révélé par ta parole, tu as parlé à travers ce voile et tu as parlé par des prophètes. Tu as fait plus que ça, tu l'as déchiré, tu l'as traversé, tu es venu en chair et en os, en Jésus-Christ, nous rencontrer. Et quand tu es remonté aux cieux, tu as laissé ton esprit sur tes apôtres qui l'ont transmis jusqu'à nous. Seigneur, c'est de toi que nous voulons recevoir la clairvoyance, la sagesse, l'intelligence, l'amour, la foi, pour comprendre ta parole. Dispose-nous, Seigneur. Amen. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant Dieu comme un rejeton, comme une racine qui sort de terre, d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence, ni éclat pour que nous nous regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, hein, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié? Qui s'est soucié de ce qu'il a été retranché de la terre des vivants? À cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteintes. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre parmi les riches, quoiqu'il n'ait pas commis de violence, quoiqu'il n'y ait pas eu dans sa bouche de fraude. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance. Il verra se prolonger ses jours et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. par les connaissances qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Il a été compté parmi les coupables parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour beaucoup de coupables. Une deuxième lecture. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, pardon, 17, évangile de Jean, chapitre 17. Au milieu de la prière sacerdotale de Jésus, les versets 22-23, et moi, dit Jésus, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Père, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Deuxième petite lecture en 2 Thessaloniciens. Philippiens, Colossiens, 2 Thessaloniciens, avant Timothée. 2 Thessaloniciens 2, les versets 13 et 14. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés, par le Seigneur, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela aussi qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et une dernière lecture, dans la première épître de Pierre. Pierre 2, 12 à 24. Au milieu des païens, il y a une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient, comme faisant le mal, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de sa visite. À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi en tant que souverain, soit au gouverneur, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, et comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde. Aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché ? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menace, mais qui s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui dont les meurtrissures vous ont guéri. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Quatre lectures que je vais situer rapidement, deux grosses qui sont en miroir, que l'une fait écho à l'autre. Le chapitre 53 du prophète Ésaïe, prophète de l'Ancien Testament, celui qui a le plus écrit. Parmi ses écrits, quatre poèmes ou chants cantiques tout à fait remarquables. Les cantiques du serviteur souffrant. Le chapitre 53 que nous avons lu en est un. Ces chants annoncent que Dieu va envoyer un homme apporter la lumière et le salut à l'humanité, à son peuple en tout cas, et que personne ne le reconnaîtra ni ne l'accueillera. Au contraire, il sera traité comme un voleur, comme un coupable. Pourtant, nous dit le prophète, cet homme de douleur a porté le péché, il a intercédé pour son peuple, il a justifié et il s'est chargé des iniquités d'un grand nombre. Vous le reconnaissez, c'est Jésus. La source de salut que Dieu donne au monde n'est pas reconnue, acceptée, considérée par le monde qu'elle sauve malgré tout. Et en miroir de ce cantique du serviteur souffrant, l'apôtre Pierre nous confronte à un enjeu difficile à vivre pour les chrétiens. Il nous encourage à supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu. En français courant, car c'est une grâce si on supporte les peines que l'on souffre injustement en étant conscient que Dieu est avec nous. Nous sommes appelés à supporter la peine, les peines que le chemin de la foi chrétienne nous conduit à rencontrer. Et pour justifier son propos, Pierre pointe du doigt que c'est ce que Jésus a vécu pour nous. Il parle du cantique du serviteur souffrant que nous avons lu. Rapidement, je pointe du doigt quelques idées décisives pour ne pas se tromper de combat. Pierre mentionne la soumission au roi, au gouverneur, qui font appliquer la justice humaine, au maître pour le serviteur. Dans d'autres épîtres, Paul ajoutera à cette liste les épouses, les enfants. Toutes ces situations sont celles où l'on ne pouvait que très difficilement se soustraire à des autorités si elles étaient toxiques. Un enfant ne peut pas vraiment fuir son foyer, même si ses parents ne sont pas bienveillants. Surtout à l'époque de Jésus, on n'avait pas des services sociaux comme aujourd'hui. Une épouse ne pouvait pas divorcer sans s'exposer à de très lourdes conséquences sociales et économiques, ni fuir son foyer. Il n'était pas vraiment possible de vivre sans être sous l'autorité d'une justice, d'un gouvernement, d'un roi. À moins de fuir son pays. Même cela, c'était très difficile à réaliser et à vivre. Pourquoi est-ce que je dis cela? Pour dire que Pierre, ne nous encourage pas à choisir toujours de rester dans la souffrance quand cela peut être évité. Il évoque des circonstances de soumission où l'on n'a peu, voire pas, d'issue. Alors, acculés dans une impasse, nous serions tentés de nous réfugier dans la haine, le mépris, l'amertume, le ressentiment, la vengeance, la colère ou le dépit, l'abandon, le repli sur soi. Et c'est de cela qu'il veut nous garder en pointant du doigt la gloire de Christ, le serviteur souffrant. À ces deux textes principaux, je veux joindre donc les deux courtes lectures de l'évangile de Jean et de l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Dans l'extrait de l'évangile de Jean, nous l'avons vu à l'étude biblique, le mardi et le jeudi, Jésus priant son Père pour tous ceux qui croiront à cause du témoignage de ses apôtres, dit ceci, « Je leur ai donné ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. » Et Paul aux Thessaloniciens exhorte l'Église en disant, c'est ce à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous apercevons bien le parallèle entre ces deux textes. Entre ce que dit Jésus, ce que dit Paul, nous recevons de Dieu la même gloire que celle de Jésus-Christ. Et nous avons lu pourtant en Ésaïe 53 que précisément, à vue humaine, Jésus n'était couvert d'aucune gloire qui frappe les yeux. Et pourtant, la gloire du Christ, invisible aux yeux humains qui ne sont pas régénérés, touchés par la foi, est la puissance du salut et de la libération du péché pour la vie éternelle. Quelle est donc cette gloire invisible que Jésus a donnée à ses disciples ? Et qu'ils ont porté et transmise jusqu'à nous par le Saint-Esprit. Quelle est cette gloire que nous sommes appelés à posséder et qui nous rend capables de supporter la souffrance d'une façon qui témoigne de Dieu? Pierre nous l'explique dans ce qu'il écrit aux Thessaloniciens. Il s'agit d'être libre de faire le bien. Ou peut-être devrais-je dire être libéré pour faire le bien. Pierre dit en 1 Pierre 2, 15, 16, 1 Pierre 2 ou 2 Pierre 2 ? Je sais plus. 1 Pierre 2. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants, insensés, étant libres, mais sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Alors, libre de faire le bien. Nous, en Occident, il faut reconnaître qu'on n'a pas l'habitude de dire qu'on est libre de faire quelque chose. On est libre entre plusieurs choses. Nous, on aurait tendance à dire nous devrions être libres entre faire le bien et faire le mal. Mais les évangiles révèlent qu'à moins de rencontrer Jésus-Christ, nous sommes esclaves du péché. Jésus l'enseigne à ces Juifs qui voulaient le suivre, qu'ils pouvaient rendre libre du péché, car dit-il, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ces Juifs étaient convaincus d'être libres et esclaves de personne et n'ont pas su recevoir l'offre de salut de Jésus. Pourtant, bien d'autres qui vont croiser la route de Jésus ont compris qu'ils étaient incapables en eux-mêmes de sortir de leurs conditions, retombant tout le temps dans les mêmes ornières, captifs du mal qui les habitait. Et eux se sont livrés à Jésus qui les a rendus libres, enfin. Car le Seigneur était et est encore aujourd'hui libre. Parfaitement libre. Personne ne peut le contraindre, personne ne peut lui tordre le bras, le capturer, lui faire du chantage, le menacer. C'est pourquoi il a été pour nous tous le serviteur souffrant. Qui d'autre que lui aurait pu supporter la violence, le mépris, le rejet, l'humiliation qu'il a subi sans fuir. Qui d'autre que lui aurait pu choisir de ne pas se venger, ni frapper en retour, ni utiliser toute la puissance pour mettre fin à tout ce qu'il vivait. Qui d'autre que lui, ayant vécu tout cela, aurait pu bénir et non maudire, pardonner et non condamner, sauver et non tuer. Jésus est le très libre. Rien dans toute l'histoire des humains, personne parmi toutes les créatures, anges, démons, tout le cosmos n'a jamais et n'aura jamais le pouvoir de le pousser, de le conduire à faire le mal. Il est totalement libre pour faire le bien. Et les Écritures saintes nous disent que le bien que Christ a fait, c'est d'obéir à son Père, à la mission qu'il a obtenue, pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle, c'est-à-dire le pardon de tous vos péchés, la justification, la régénération du cœur, la résurrection, l'adoption, l'héritage du monde. Que béni soit le nom de Jésus pour l'usage qu'il a fait de sa liberté. Jésus utilise sa grande et parfaite liberté pour nous sauver. Et c'est ça qui le rend tellement glorieux. C'est pour cela que le Père Tout-Puissant prend tout son plaisir en lui. C'est pour cela que Jésus, le Fils, nous montre absolument, parfaitement le visage de Dieu le Père. Et c'est à cette gloire-là que nous sommes tous appelés. Libérés du péché pour faire le bien, pour faire la justice, comme nous le rappelle l'apôtre Paul. En Romains 6, les versets 14 et 18, Paul dit: car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Au verset 18, ayant été affranchis, libérés du péché, vous êtes devenus esclaves ou serviteurs de la justice. Cette liberté, elle est la mienne aujourd'hui. Elle est la mienne aujourd'hui. Je veux le croire. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas vraiment. Je marche encore dans le péché. Je choisis encore de pécher. Je me pense encore esclave de ceci, incapable de vivre sans cela, enchaîné là, attaché à ça. Il y a des attitudes en moi dont je n'arrive pas à me défaire. Des combats qui me semblent irrémédiablement perdus. Mais cette liberté m'a été donnée par l'Esprit de Jésus qui vit en moi. Et j'ai confiance qu'il va grandir et me rendre de plus en plus libre. Paul nous y encourage dans sa lettre aux Corinthiens que nous avons lue il y a quelques dimanches pour l'Église persécutée. Il dit: or, en 2 Corinthiens 3, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Toi qui m'écoutes ce matin, tu peux recevoir l'Esprit du Seigneur qui rend libre. Jésus est vivant aujourd'hui. Il est puissant et toujours libre face au péché. Si son Esprit vient vivre en toi, tu seras rendu libre du péché et tu deviendras capable de marcher à sa suite, c'est-à-dire de suivre ses commandements, d'être affranchi de l'emprise du monde, de toute cette vie. Tout cela pour servir le bien. Car il ne faut pas l'oublier, le vrai bien, ce n'est pas de vivre pour moi, mais d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé, a dit Jésus. Cette liberté, Jésus l'a vécue au service du royaume de Dieu, au service du bien. Moi aussi, cette liberté face au mal m'a été donnée pour servir le bien, pour pour vivre dans le royaume des cieux. Dieu ne me libère pas du péché pour que je continue à vivre pour moi-même, comme avant. Dieu ne me donne pas la vie éternelle pour bénir mes petits projets à moi. Pourtant, c'est tellement ça que je vis la plupart du temps. Et c'est tellement pour cela que la liberté de Christ en moi grandit si doucement. N'ayez pas de crainte. Il ne vous reprendra jamais, l'Esprit Saint. Christ est mort pour nous, une fois pour toutes. Il n'y a pas de chantage. Et ce n'est pas ce que je veux sous-entendre. Ce que je veux dire, c'est que cette liberté du Christ en moi ne grandit pas lorsque je continue de vouloir vivre pour moi, ou peut-être pour les miens. Je peux tout à fait recevoir l'Esprit de Christ, vivre ce grand feu de joie en moi de la conversion, et puis continuer de vivre selon les principes qui m'animaient avant. Pour que cette liberté du Christ grandisse en moi, il me faut suivre le Christ. Cette liberté est féconde lorsqu'elle veut bénir les autres, et alors je suis béni aussi. Alors rassurez-vous, vous ne serez pas contraint, vous ne serez pas manipulé par Dieu, vous ne serez pas menacé par Dieu. Et rejetez toutes les doctrines qui vous captureraient à nouveau dans la peur vis-à-vis de cela. Mais je ne peux pas me taire et passer sous silence que cette liberté que nous reconquérons par le sang du Christ est totalement rattachée à la mission de briller sur terre, comme Jésus. Vivre cette liberté autrement n'est pas la volonté de Dieu. Et au fond de vous, vous le comprenez aussi bien que moi. Est-ce que je la veux, cette gloire de Jésus ? Vous avez reçu la gloire de Jésus par son Esprit Saint. Je vous le rappelle ce matin. Ou je vous invite à le recevoir si vous ne l'avez pas encore reçu, cet Esprit de Dieu. Aussitôt le culte fini, vous venez me voir, venez voir un ancien, approchez-vous et nous prierons pour que vous receviez l'Esprit de Dieu. Cette gloire ne nous donne pas un goût spécial pour la souffrance qui nous rendrait capable de traverser les épreuves avec un sourire béat ou une espèce de bravoure, même pas peur, même pas mal, pas du tout. Christ a pleuré face à la croix. Son angoisse était telle qu'il transpirait des gouttes de sang. Son âme était en proie à la terreur. Mais face à la croix, il a choisi encore de faire le bien. Il a marché jusqu'à son lieu d'exécution par amour pour celles et ceux qu'il allait sauver. Par amour pour Dieu son Père, avec qui il avait construit ce plan merveilleux, merveilleusement fou. Voulez-vous marcher derrière ce Jésus qui est glorieux de cette manière? Avez-vous envie de comprendre cette gloire invisible parce que trop humble pour nous? Moi, j'en tremble. Quand j'imagine ça, j'en tremble. Mais mon cœur se serre. Quelque chose en moi qui me dit, oh, c'est vrai.
c'est ça le chemin. Mais j'ai peur. Être capable de répondre tout le temps au mal par le bien, de bénir ceux qui me maudissent, de tendre l'autre joue, de faire un mille de plus avec celui qui me persécute. Vivre ça, si je n'ai pas l'Esprit du Seigneur, ça me détruira. Supporter un conjoint toxique, si je n'ai pas l'Esprit du Seigneur en moi, ça me détruira. Vivre dans une famille dysfonctionnelle, si je n'ai pas l'Esprit du Seigneur, ça me fera du mal. Être au travail avec des employés, des collègues qui me font du mal, qui me méprisent, si je n'ai pas l'Esprit du Seigneur, ça me fera du mal. Ça me fera du mal. Si j'ai l'Esprit du Seigneur, cette gloire-là, alors ça me fera mal. Mais ça ne me détruira pas. Mais pardon, j'ai décroché là. La vraie vie, celle qui dépasse ce que je peux imaginer, celle qui a un sens profond, fou, celle où chaque rencontre compte, où chaque situation est une occasion de bénir, de briller de Jésus, de servir Jésus. Ça commence chez soi. Ça commence par ne pas mépriser Monsieur le Président Macron sur l'actualité. Être courtois avec ses voisins. Même s'il nous pique tout le temps la poubelle. Refléter sa gloire, annoncer son salut. Vivre une vie libre en Christ, mais libre pour le bien. Amen.